Nous sommes de retour dans Beyond the Stables. L'interview d'aujourd'hui marque le début d'une série d'épisodes qui seront publiés chaque semaine. On se retrouvera tous les jeudis avec des jeunes talents du monde du saut d'obstacle. Aujourd'hui, nous sommes avec Julien Anquetin, un jeune cavalier de l'équipe de France réputé notamment pour sa rapidité et ses nombreuses victoires en concours de saut international 5 étoiles. D'ailleurs, cet épisode a été enregistré au lendemain de sa victoire dans une épreuve qualificative de la Coupe du Monde ici à La Corogne. Julien montait son fidèle et rapide Blood Diamond Dupont. Julien est une figure que l'on retrouve souvent sur le circuit Coupe du Monde et qu'on verra bientôt de plus en plus sur la Global Champions League en tant que membre de l'équipe des Doha Falcons. Nous allons profiter de l'expérience de Julien pour aborder des sujets tels que l'organisation et le quotidien d'un cavalier professionnel en déplacement constant, la clé d'un barrage réussi, le sponsoring et bien plus. Restez à l'écoute pour en savoir plus et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater.
They jump the last, they're clear, that's a great start. That is an absolutely superb round.
Bonjour Julien et bienvenue dans Beyond the Stables. On se retrouve aujourd'hui à La Corogne pour une des épreuves de la Coupe du Monde. Déjà hier, tu as gagné la qualificative et on croise les doigts pour cet après-midi. Donc le but de cet échange, c'est vraiment d'en apprendre plus sur toi, mais aussi sur le quotidien cavalier de haut niveau en général, donc à la maison comme en concours. On veut commencer par te demander comment est-ce que tu te décrirais, mais aussi comment est-ce que tu penses que les autres te voient.
Alors, bonjour déjà. Comment je me décrirais, c'est pas une question que je me suis déjà posée en vrai. Je pense que dans le haut niveau, dans le 5 étoiles, c'est maintenant un monde dans lequel je fais partie. J'ai l'impression que les autres cavaliers me reconnaissent comme entre guillemets leur semblable. Je pense que je me décrirais comme un cavalier qui a un bon feeling et qui est assez rapide quand même.
Et si tu penses que si tes chevaux pouvaient parler de toi, tu penses qu'ils diraient quoi sur toi?
J'espère qu'ils m'aiment bien déjà. J'essaye de prendre le soin d'eux de la meilleure des façons possibles. J'ai une bonne connexion avec mes chevaux, donc je pense que ouais, je suis un peu leur pote quoi.
Et du coup, en parlant de tes chevaux, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton phénomène Blood Diamond avec qui tu as gagné hier?
Ouais, bah Blood, c'est un cheval que j'ai depuis qu'il a 8 ans. Et il a maintenant 12, il va tourner sur 13 ans dans un mois. C'est un cheval hyper généreux qui a presque des fois trop envie, donc il faut un peu le canaliser. Mais bon, quand on est dans un barrage, c'est sûr que si ça passe, on est dans les 2-3 premiers, c'est sûr.
On a bien vu en plus hier soir, un beau barrage.
Ouais, magnifique.
Et en vrai, en parlant un peu de barrage, en barrage, on veut toujours tout donner et prendre, je pense que, tous les risques. Mais comment est-ce que tu valides quels risques tu peux prendre?
Il y a un truc qui est très important, je pense, c'est qu'il ne faut pas aller plus vite que son cheval. Okay. Il faut suivre le mouvement du cheval. Il y a des risques, effectivement, dans des virages, dans des, voilà, des options qu'on peut prendre pour prendre plus de risques. Et là, effectivement, il y a une barre qui peut arriver. Mais si on ne dépasse pas le rythme de son cheval... Normalement, si tout est bien, se produit comme on le souhaite, je dis pas qu'une barre peut pas arriver, mais là où on prend les plus gros risques, c'est quand on dépasse la vitesse auquel le cheval peut aller. Et indéniablement, il y a des chevaux plus vite que d'autres.
D'ailleurs, en parlant de chevaux rapides, si tu pouvais changer et monter juste un cheval du circuit 5 étoiles, t'aurais choisi qui?
Bonne question. Bonne question, c'est très difficile d'y répondre parce que c'est des couples. Pour moi, c'est pas des chevaux, c'est des couples. Effectivement, il y a des chevaux qui font vraiment envie à ce niveau-là, plein. Mais on parle plus de couple que pour moi, un cheval qui fait la différence, c'est une histoire. Je pense qu'un cheval comme King Edward, c'est aussi le couple avec Henrik qui fait que ça les rend incroyables. Donatello et Julien, c'est pareil. Voilà, c'est pour moi aujourd'hui les deux meilleurs chevaux au monde, mais je sais pas, j'ai pas de réponse.
Okay. Ouais, c'est vrai qu'à la fin, c'est un partenariat, c'est un couple. Et Donatello, il va très bien avec Julien, mais ça ne va pas dire qu'avec l'an prochain, il va faire les mêmes résultats.
Oui, j'imagine. C'est un très, très bon cheval, un excellent cheval. C'est sûrement un des meilleurs au monde. Donc, probablement qu'il irait bien avec d'autres cavaliers. Mais bon, ce couple-là, aujourd'hui, fait rêver, quoi.
Après, si tu regardes par exemple Simon et Caïman, c'est pas un cheval qui, en le regardant, qui donne très envie.
Non, effectivement, il paraît difficile. C'est un cheval qui paraît difficile. C'est sûr qu'un cavalier comme Simon, qui a toute l'expérience et qui monte magnifiquement bien, le sublime. Mais c'est sûr que c'est un cheval qui paraît plus compliqué que d'autres, ça c'est évident.
Et une question qui est peut-être un peu répétitive, on entend souvent, mais c'est quel cavalier qui t'inspire le plus en ce moment, ou en général ?
En ce moment, c'est sûr que moi, dans ma vision des choses, un cavalier comme Henrik Van Eckermann ou Julien Paillard, c'est deux cavaliers qui m'inspirent beaucoup dans mon approche de l'équitation. Sur le ring, sur la piste. Ensuite, il y a d'autres cavaliers qui m'inspirent dans la gestion, dans plein de choses. Mais si on parle d'équitation pure sur la piste, un cavalier comme Julien ou Henrik, c'est vraiment des cavaliers qui m'inspirent.
D'ailleurs, hier soir, on se faisait la réflexion, on trouvait que ça avait un peu le même style que Julien. Et d'ailleurs, on t'a vu la semaine passée à Madrid et dans la Cibar, et on se demandait c'est quoi l'intérêt d'engager un cheval dans une Cibar.
La Cibar, je trouve que c'est un bon exercice. Plein de très bons cavaliers font souvent la Cibar. Je pense notamment à Marcus Henning ou à Dennis Lynch qui font très régulièrement les Cibar. Parce que déjà ça commence progressif, c'est pas en général un exercice qui fait peur aux chevaux. Ça permet des fois de décoincer un cheval qui a un problème dans les combinaisons ou qui a besoin de prendre confiance en lui sur la hauteur.
Et en parlant de Dennis Lynch, c'est lui qui a récupéré Cordial. Tu en penses quoi de ce nouveau couple ?
J'en pense pour l'instant, j'ai envie de voir parce que c'est vrai que Dennis c'est un des meilleurs au monde. En termes de précision et dans son équitation, c'est un des meilleurs. Et Cordial, c'est aussi un crack cheval. Donc ça donne envie de voir ce qui va se passer par la suite parce que ça peut donner quelque chose de formidable.
Ouais, c'est quand même un peu dommage pour la France d'avoir perdu Cordial quand même, non ?
Oui, de toute façon, quand un pays, une nation perd un cheval, c'est dommage pour eux forcément. Après, voilà, c'est une histoire qui s'arrête, une autre qui va commencer. Puis c'est le cycle, hein, tout le monde... Megan Moissonnier retrouvera certainement un cheval parce que c'est aussi une très bonne cavalière, donc voilà, je suis pas inquiet du tout.
Dans tous les cas, on a vraiment hâte de revoir Megan en équipe de France parce que c'est vraiment chouette de voir de jeunes visages français féminins porter la veste bleue. Mais maintenant, si on retourne un peu au concours, on va aborder un sujet qui attise notre curiosité depuis un moment. Parce qu'en tant que spectateur, nous, on voit vraiment une différence entre les concours Rolex et Longines. Donc, on voulait se demander si pour vous, les cavaliers, est-ce qu'il y a une différence? Parce que nous, en tant que spectateurs, on ressent cette différence vraiment dans l'atmosphère en tant que public.
Non, je pense qu'il n'y a pas... Enfin, peut-être que je dis une bêtise, mais je pense qu'il n'y a pas de différence. C'est juste le sponsor du concours qui change, mais les organisateurs, que ce soit un sponsor ou un autre, ils organiseraient, j'imagine, de la même façon. Pour moi, c'est juste le sponsor du concours. Par exemple, un concours comme La Baule, il est passé de Longines à Rolex. C'est resté, je pense, le même concours. C'est pas parce que c'est peut-être là une différence de dotation, mais l'organisation reste la même.
Et en parlant un peu de les chevaux, un week-end et l'autre, comment est-ce que vous organisez votre plan de concours ? Est-ce que genre au début de l'année, vous regardez tous les concours, vous essayez un plan pour tous les chevaux ou ça marche comment ?
C'est toujours évolutif en fait. Ça évolue en permanence parce que il y a aussi la forme du cheval. Qui peut changer. Si un cheval, on avait prévu ça et qu'il est plus en forme, il faut lui donner un break plus long ou des fois un cheval qu'on remarque que quand il enchaîne, il est meilleur quand il enchaîne. En général, on est censé bien connaître nos chevaux, mais aussi il y a des chevaux qui arrivent dans l'année, on ne garde pas tout le temps les mêmes chevaux. Il y a parfois des ventes, parfois des propriétaires qui changent de cheval, de cavalier. Donc ça, on doit adapter. Il y a un plan de base et après, il évolue.
C'est intéressant de voir que votre plan, il est très évolutif. Et surtout que vous devez vraiment vous adapter à chaque fois à vos chevaux, parce qu'à la fin, c'est pas des machines. Ils ont des mauvais jours et des bons jours. C'est des animaux, à la fin, qui peuvent être un peu imprédécibles. Donc, vous parlez maintenant aussi un peu en termes de logistique. Comment est-ce que ça se passe pour les chevaux ? Parce que vous êtes en déplacement constant avec les concours, un pays ou une ville différente presque tous les week-ends. Est-ce qu'ils ont le temps de rentrer à la maison chaque semaine ou ils se déplacent directement d'un concours à l'autre ?
Ouais, il rentre à la maison parce que déjà ces concours-là, pour ma part en tout cas, je les enchaîne pas tous les week-ends avec les mêmes chevaux parce que ça serait, pour, je pense, trop dur pour eux. Alors à enchaîner deux semaines, là entre, ils ont fait Madrid, La Corogne, ils sont pas rentrés à la maison. Enfin, Blood Diamond n'est pas rentré, il a fait les deux. Ensuite, moi j'aime bien qu'ils rentrent, qu'ils profitent un peu du parc, qu'ils vivent leur vie de cheval, quoi. Si on enchaîne trop de routes et tout ça, ça les fatigue trop et ils pourraient pas tenir le rythme.
Et d'ailleurs, les cavaliers, vous avez le temps d'entrer à la maison ou...
Ouais, lundi, mardi, des fois mercredi, et on repart.
Et ça n'a pas été trop difficile quand tu étais plus jeune, parce que tu as commencé le haut niveau relativement jeune, pour avoir une vie sociale?
Non, parce que la vie sociale, tous nos copains sont en concours, en vrai. Moi je pense que j'ai une vraie vie sociable. je suis quelqu'un d'assez sociable normalement. Non, nos copains sont en concours et puis comme on va de concours, en fait, on a toujours les mêmes personnes et on crée des liens d'amitié. Je pars en vacances là avec des copains de concours. C'est des liens qui sont créés depuis un moment maintenant.
Enfin, vous êtes, j'imagine, presque toujours les mêmes cavaliers à chaque concours. Il y en a toujours un ou deux que tu vas reconnaître au concours.
C'est sûr que maintenant, je vais dans n'importe quel pays faire un concours. Je connais presque tout le monde.
Mais est-ce que du coup, tu trouves ça important d'avoir une vie en dehors du cheval ?
Bah, peut-être pour certains, peut-être pas pour d'autres, je sais pas. Pour ma part, en tout cas, j'ai ce qu'on appelle une vie en dehors du cheval... La majorité de mes connaissances ont un rapport avec le cheval, qu'il soit plus proche ou loin, mais un rapport. Et honnêtement, moi je suis en concours presque tous les week-ends, donc j'ai pas le temps de, quand je suis à la maison du lundi au mercredi, je vais pas aller en boîte de nuit, quoi.
Seulement les week-ends. Et du coup, raconte-nous un peu comment c'est quand t'es à la maison. Donc, généralement, j'imagine que c'est de lundi, mercredi, et après le week-end en concours. Comment est-ce un jour au quotidien aux écuries?
Alors, c'est assez découpé le lundi. Le lundi, souvent je rentre de concours, je monte pas beaucoup de chevaux le lundi, je monte 2-3 chevaux. Mais j'ai mon cavalier qui est mon cousin. Qui est le lundi, on saute en général tous ses chevaux. Donc lundi c'est plus coaching pour ma part. On passe une journée. Moi je revois tous les chevaux sauter un peu qui n'ont pas été au concours, avec lui. Et puis on travaille sur les jeunes et tout ça. Et ensuite mardi, mercredi, je travaille mes chevaux, je prépare les chevaux qu'il y a à préparer pour les semaines d'après. Les trainings, des petits cavaletti pour certains, sauter un peu plus gros pour d'autres qui ont besoin d'aller au concours. Enfin, voilà, c'est vraiment chaque semaine est différente. Il y a pas, c'est pas le lundi, le mardi on fait des cavaletti, le mercredi on saute, et jeudi on fait du dressage. Non, c'est vraiment on adapte le programme par rapport au programme des chevaux.
Et par exemple, avec les chevaux que tu es là ce week-end, est-ce que pendant la semaine tu vas les sauter ou tu les travailles juste au plat et puis tu les gardes pour le week-end?
Les chevaux qui sont là?
Oui, enfin, je prends l'exemple, par exemple, cette semaine avec Blood Diamond et Askew, est-ce que tu les as sautés ou tu les as juste travaillés au plat et...
Ils ont fait passer d'un concours à l'autre. Ouais. Ils ont déjà sauté assez gros au concours. C'est des chevaux qui normalement, qui ont pas mal d'expérience. Ils n'ont pas besoin de ressauter entre les concours, quoi. C'est justement, on les garde, on essaye de les préserver plus que de les user, quoi.
Retournons un peu au concours et au voyage et tout. Une des personnes les plus importantes dans l'équipe, c'est quand même la groom. C'est elle qui passe tout le week-end avec les chevaux et puis qu'après, il va les ramener. Est-ce que tu as une groom pour les concours et une sur place à la maison? Comment ça marche en fait avec tout le système des grooms?
Et c'est quoi votre relation? Parce que vous êtes tout le temps ensemble, je suppose.
Ouais, ma groom, Juliette, elle est avec moi maintenant depuis presque 6 ans. Au moins 5 bonnes années, on ne doit pas être loin des 6 ans maintenant. C'est quelqu'un en qui j'ai totalement confiance, celle qui conduit le camion, qui emmène les chevaux partout. Elle se débrouille de tout, je dois dire. Oui, à la maison aussi, il y a des grooms, des cavaliers maison, des gens qui s'occupent des chevaux à la maison, bien sûr, parce que moi je suis, et Juliette, on est partis, elle encore plus que moi, parce qu'elle part avant, elle rentre après. Et en général, elle est en repos quand elle est à la maison, donc voilà. Ouais, c'est l'entente qu'on a. Elle est, elle a, en fait, on fait partie de la même équipe et puis elle a autant envie que moi de gagner l'épreuve. Donc c'est hyper important d'avoir quelqu'un d'investi. La victoire d'hier, c'est aussi sa victoire. J'entendais, quand j'étais au box après l'épreuve, j'entendais les autres grooms lui dire « Bravo Juliette pour ta victoire ». Et parce que c'est aussi sa victoire. Donc c'est quelque chose de ça, ouais, c'est quelque chose de très important, mais je pense que toutes les grooms ou tous les toutes et tous les grooms de ce niveau là sont dans le même état d'esprit.
Après, c'est quand même une vie très spéciale, on passe sa vie avec les chevaux et on vit vraiment les moments du cavalier, mais c'est beaucoup de sacrifices, j'imagine.
Oui, bien sûr, bon, c'est quand même c'est rare les grooms qui vieillissent dans ce métier-là. Ils se redirigent vers une autre voie plus avec moins de mouvement, on va dire. Parce que là, ils sont partis toutes les semaines. En général, après, ils finissent, quand ils adorent une écurie, ils finissent à la maison, à l'écurie, ou en chef d'écurie, ou voilà, ils changent de poste. Il y a des exceptions, hein, il y a quelques exceptions. Le groupe de Bosti, Claude, il a fait toute sa vie ça, et je pense qu'il adore, et je le vois pas arrêter demain. Mais voilà, c'est quelques exceptions. Les autres, en général, c'est un métier qui est trop dur. Et du coup c'est difficile de durer dans le temps.
Tu trouves d'ailleurs qu'on aurait dû les mettre plus en valeur, les grooms?
Probablement, ouais. Il y a certains concours où, qui récompensent les grooms à la remise des prix et tout ça. Ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable. C'est vraiment une chouette initiative de le faire. Parce que, comme je disais, quand ils gagnent, c'est aussi leur victoire et ils méritent d'avoir la récompense de ça.
Quand tu vas en concours, qu'est-ce que tu attends le plus et qu'est-ce que tu redoutes le plus ?
Difficile. Qu'est-ce que j'attends le plus ? C'est forcément une victoire. Ça, franchement, je vais pas en concours en ayant des doutes parce que sinon, ça marche pas. Enfin, c'est ma vision des choses. J'ai pas trop de doutes. Voilà, on a tous le même. Enfin, je pense que tous les cavaliers ont le même objectif en allant en concours, c'est des victoires. Alors après, que ce soit une victoire ciblée pour une épreuve ou que ce soit le Grand Prix ou une autre épreuve, où en fait, chaque cheval, quand on arrive au concours, on sait qu'on peut pas tout gagner. Ouais. C'est impossible. Enfin, c'est pas impossible, mais pour la plupart du temps, il faut cibler. On ne peut pas courir toutes les épreuves. Par exemple, cette semaine, j'ai couru le premier jour et le deuxième jour avec Blood Diamond pour gagner. Et en revanche, le Grand Prix, je vais le faire avec Ice Cube et je n'ai pas couru les deux premiers jours. Je l'ai laissé sauter, je l'ai laissé se mettre à l'aise sur la piste. Et là, aujourd'hui, je vais monter pour gagner. Alors, je ne dis pas que ça va fonctionner forcément, mais voilà, il y a un plan qui est établi, quoi.
C'est intéressant de voir que le plan varie, qu'il est ciblé et que jusque-là, la stratégie semble bien fonctionner. Et on espère que ça va continuer cet après-midi. Maintenant, on voulait aborder un sujet incontournable qui est le commerce.
Ouais, bah, c'est sûr que dans notre métier, le commerce, c'est quelque chose qui est pour, enfin, en tout cas pour moi, quelque chose d'important parce que ça permet de faire avancer notre écurie, de conserver certains chevaux par le fait d'en vendre d'autres. Financièrement. Pour ma part, je vis du commerce, des gains, de concours, des propriétaires qui me font confiance et qui investissent et qui me confient des chevaux, de sponsors également. Voilà, c'est un ensemble de tout qui fait que ça peut fonctionner.
Et en parlant un peu de propriétaires, on se posait la question, enfin très souvent, les chevaux, il y a plusieurs propriétaires ou un grand propriétaire. Lors des gains, alors comment est-ce que vous partagez le prize money? Est-ce que ça va direct juste au propriétaire? C'est divisé aussi avec le cavalier?
Ça, c'est vraiment un accord que chaque cavalier avec son propriétaire. Ça, c'est pas je peux pas répondre pour comment ça se passe en général. C'est parce que c'est vraiment un accord entre le cavalier et le propriétaire.
On a vu que tu étais sponsorisé par une banque.
Oui.
Comment est-ce que ça se passe pour un partenariat avec une banque? Parce que c'est pas habituel, non, dans le monde du seul obstacle.
En France, peut-être pas, mais en Allemagne, par exemple, il y avait aussi une banque qui sponsorisait des cavaliers. Je crois qu'ici, en Espagne aussi, il y a une banque qui sponsorise au moins des événements. Moi, c'est le Louvre Banque Privée qui me sponsorise. C'est la banque privée de la Banque Postale. Voilà, c'est un partenariat qui dure déjà depuis quelques années maintenant, qui est assez pérenne et j'espère qu'on va continuer encore pour de nombreuses années.
On a aussi vu que tu étais en partenariat avec XTX France. D'ailleurs, on enregistre cet épisode dans ton super camion. Comment est-ce que votre partenariat fonctionne ?
Alors, j'ai un partenariat avec STX France, qui est le représentant de Stefex de STX en France. Qui me confie ce camion qui est incroyable. On a commencé il y a 2 ans maintenant et c'est pareil un partenariat qui fonctionne très bien. Moi je suis ravi de mon côté, j'espère que le sont de leur côté aussi. C'est vrai que c'est pour un cavalier, ça donne vraiment un coup de pouce parce que c'est une partie très importante, le camion, aussi bien pour notre confort que pour le confort des chevaux. Pour les transports, là on peut voir le sol, il est sous caoutchouc amortissant, ils n'ont pas de vibration pendant la route, ils ont des grandes places. Enfin, vraiment, on les met dans les meilleures conditions possibles. Et ça, c'est vrai que quand on arrive au concours, les chevaux sont moins fatigués et ça nous laisse aussi plus de chances de gagner, quoi.
L'équitation et surtout le saut d'obstacle, c'est un sport qui reste très 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 cher. Comment est-ce qu'on peut rentabiliser ce sport? Parce que c'est pas tous les week-ends qu'on va gagner les Coupes du Monde, donc j'imagine peut-être c'est plus la vente de chevaux ou le coaching.
Ouais, mais comme je disais, c'est un ensemble de tout. Ouais. C'est un ensemble de toutes choses qui fait que ça peut fonctionner. Il y en a pour qui c'est plus le commerce, pour d'autres c'est plus les gains, pour d'autres c'est plus les sponsors. Pour d'autres, c'est un équilibre de tout ça. Il y a plein de modèles différents qui peuvent fonctionner. Il faut juste qu'à la fin, il y ait assez d'argent qui rentre pour financer tout ça, quoi.
Et si on n'est pas issu, du coup, d'une famille de cheval, parce que toi, c'est une histoire de famille, ça va être quand même beaucoup plus dur de réussir. Avoir les moyens financiers derrière pour backup, ça va être quand même beaucoup plus facile, même si c'est très critiqué. Quand on arrive de nulle part dans ce monde, ça va être quand même beaucoup plus dur.
Oui, probablement. De toute façon, le fait d'être introduit depuis tout petit dedans, ça offre beaucoup de facilité, déjà parce qu'on a toujours vu que ça, connu ça. Et puis au niveau du réseau aussi, ça aide. Et oui, bien sûr que c'est plus difficile quand on n'est pas issu du monde du cheval. Hein. Ça, c'est, il y a pas de sujet.
Et comment ça se passe du coup avec ton père?
Ouais, ça se passe très bien. Mon père, on partage les écuries ensemble. On a chacun notre fonctionnement, notre compagnie, mais lui, il fait beaucoup plus de la formation de jeunes chevaux, de commerce de jeunes chevaux. Et moi, je fais un peu plus sur les plus vieux. Voilà, chacun a son fonctionnement. Mais oui, de toute façon, il a de l'expérience, il a fait toute sa vie dans les chevaux. Donc, bien sûr qu'il me conseille hein, sur plein de points.
Et en parlant de victoires, tu as aussi eu un week-end exceptionnel à Helsinki avec 3 victoires en 5 étoiles. Comment tu as vécu ce week-end de rêve?
C'est pas souvent quand même qu'on a des week-ends si parfaits.
Helsinki, c'est vraiment un concours que j'affectionne. C'est très loin pour nous. Alors quand on fait autant de kilomètres, on essaye de se donner de la meilleure des façons pour que ça se passe bien. Mais j'ai toujours eu pas mal de réussite à Helsinki. C'est vraiment un chouette concours. L'ambiance et c'est dans une patinoire de hockey sur glace. Donc l'ambiance est vraiment sympa. C'est Helsinki et Göteborg. C'est deux concours que j'aime beaucoup parce que l'ambiance est vraiment chouette. C'est comme un stade en fait.
Et pour vous les cavaliers, est-ce que l'ambiance c'est important? Est-ce que ça change quelque chose pour vous?
Ouais, je crois que c'est quelque chose d'important. C'est un sport. Comme tous les sports, quand il y a un public qui soutient les athlètes, c'est un plus. Et nous, on aime ça. Enfin, vraiment, on le fait pour nous, on le fait pour les chevaux, on le fait pour le public. Et quand ça se passe bien et que l'arène, entre guillemets, résonne d'applaudissements, bah, c'est quand même une chaleur, vraiment. Enfin, c'est quelque chose de vraiment agréable.
Et du coup, ton public préféré, c'est lequel ?
Bon, je vais dire en France, parce que quand on est français, en France, que dans des concours comme Lyon, comme la Baule ou Paris FL, c'est vraiment des concours où, et puis j'en oublie, hein, parce qu'il y a d'autres super concours, mais c'est des concours où on sent le public soutenir les cavaliers français. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Après, j'apprécie aussi beaucoup les concours en Allemagne, parce que c'est un public en général très 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 connaisseur. En Allemagne, c'est un public très connaisseur, et aussi en Suède. En Suède, c'est aussi d'un public très connaisseur. Et il y a une vraie ambiance, donc c'est des endroits, ces trois pays-là, moi c'est des endroits où j'adore aller.
Nous-mêmes, en tant que spectateurs, surtout enfin, en Allemagne, c'est ce que je connais le plus, et c'est vrai, genre, même entre spectateurs, tu entends toujours un qui commente, il raconte sur les différents cavaliers. Ce qu'on voit le plus, c'est qu'ils vont encourager tous les cavaliers, peu importe la nation. Après, c'est vrai que les Allemands, ils vont toujours les encourager un peu plus, mais par exemple, ici en Espagne, ils essayent, mais c'est surtout pour les Espagnols qu'il y a tous les applaudissements.
Oui, c'est normal aussi que chaque nation soutienne son cavalier de sa nation, ça c'est logique. Mais bon, je dois dire que là, ici, à La Coruña ou même à Madrid, il y avait une sacrée ambiance. Hein. C'est une belle ambiance, c'est chouette. Il y a un public qui est motivé et tout. Les organisateurs organisent très, très, très bien. Donc non, c'est des concours agréables.
Et puis en indoor aussi, c'est peut-être un peu plus différent, l'ambiance.
Moi, c'est une ambiance que j'adore. L'indoor, la saison Coupe du Monde, c'est vraiment une ambiance que j'adore. Il y a des très, très beaux concours à l'extérieur. Hein. C'est pas du tout le sujet, mais j'adore, moi, les indoors.
Mais tes chevaux, ils préfèrent les indoors ou les dehors ?
Est-ce que ça change ?
Il y a des chevaux... En général, quand un cheval est assez bien en indoor, il est bien dehors. Mais par contre, il y a des chevaux qui sont bien dehors, mais pas très bien en indoor, qui sont inquiètes un petit peu en indoor. Après, les chevaux d'expérience, en général, sont bien dans les deux.
Est-ce que pour les chevaux, ça leur coûte beaucoup de temps de s'adapter après un long voyage? Enfin, quand ils arrivent à un nouveau concours, est-ce qu'ils ils se mettent un peu dans le mode athlète et ça va, ils s'habituent très vite?
Les jeunes chevaux, oui, peut-être, mais les chevaux qui ont l'habitude de voyager, non. C'est... Quand ils voyagent bien, qu'ils ont l'habitude... Ça, en général, enfin, moi je sais que j'ai pas trop de soucis de ce côté-là.
C'est super intéressant parce qu'à la fin de la journée, les chevaux ce sont des athlètes aussi. Et c'est très important qu'ils soient en forme en arrivant parce qu'ils arrivent un jour et le lendemain le concours commence. Donc il n'y a pas énormément de temps d'adaptation, donc ils doivent bien voyager pour bien arriver, être en forme pour le grand week-end qui attend. Donc on va changer un peu maintenant de sujet radicalement, mais on a une question qu'on voulait bien poser à un cavalier et non à une cavalière. Donc on en profite de l'opportunité. On entend souvent qu'il y a beaucoup plus de femmes qui montent à cheval que d'hommes, surtout au niveau haut niveau. Au niveau amateur c'est très différent, mais au niveau on voit principalement des hommes. Toi qui baignes dans ce monde, pourquoi est-ce que tu penses que c'est comme ça?
Je sais pas. C'est vrai que ça m'était pas passé par la tête cette question, donc j'ai pas trop de réponse. Si vous avez une idée, je veux bien l'entendre.
Ouais, nous on a notre petite théorie. On s'était dit que les femmes, d'une façon ou d'une autre, elles ont un esprit un peu maternel, un sens peut-être un peu maternel, et du coup peut-être qu'elles prennent moins de risques parce qu'elles ont ce côté-là.
Ouais. Peut-être, mais c'est peut-être vrai aussi dans tous les sports, comme la course automobile ou comme où il faut prendre des risques vraiment énormes, et peut-être, je sais pas, j'ai pas trop de... J'ai pas envie que toutes les féministes me tombent dessus, entre guillemets, donc je vais pas dire de bêtises.
On avait plus peur de...
Je vais pas dire de bêtises, mais non, mais pas du tout. Il y a des femmes qui montent très 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 bien, même mieux que des hommes. Hein. Ouais. Donc moi j'ai pas du tout de théorie là-dessus.
Et aussi on se dit aussi que c'était peut-être un peu un côté émotionnel, parce que on peut parler pour nous, on va pas généraliser ça à toutes les femmes, mais que c'est beaucoup, on s'attache vraiment beaucoup plus à l'animal, ça devient plus vraiment c'est plus un cheval, ça devient un enfant.
Je pense que ça c'est plus un côté amateur qu'autre chose. Quand tu es professionnel, on doit penser à un aspect économique. Oui, bien sûr que moi, je m'attache à mes chevaux. Hein. Si j'en ai un des meilleurs qui doit être vendu demain, ça va me faire beaucoup de peine. Mais il y a un aspect économique qui rentre en course, et puis on ne peut pas faire sans, quoi.
Alors, elle est très intéressante, ta réflexion, car elle montre justement à quel point nos perspectives en tant qu'amateurs à celles des professionnels changent. Parce que justement, dans le monde amateur, on avait une vision un peu différente. Peut-être que ce n'est pas le cas chez tous, mais au moins, ceux qu'on connaît, ils avaient un peu la même perspective que nous. Donc, c'est très intéressant de voir comment c'est la réalité dans ce monde professionnel. Et à la fin, c'est comme tu dis, c'est, vous êtes des professionnels, c'est votre métier. Et lamentablement, la vente des chevaux fait partie du métier. Mais on le sait tous depuis le début. Et c'est simplement quelque chose auquel on doit vivre avec. Alors, en parlant de métier et de profession, en tant qu'athlète, un des plus grands goals et honneurs, à côté d'être en Coupe de Nations, c'est de participer aux Jeux. D'être cavalier, médaillé, ou au moins cavalier qui a participé aux Jeux Olympiques. Et vu que l'année olympique s'approche très vite avec Paris 2024, on aimerait bien savoir quel est ton avis sur cette liste de la FFE qui a fait un peu de débat. Quels sont tes avis dessus ?
Pas trop d'avis. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose de lister des chevaux, des cavaliers. C'est surtout un moyen d'aider certains cavaliers, je pense, de les mettre sur une liste pour les aider financièrement et puis peut-être les aider sur d'autres points. Et puis peut-être sécuriser des propriétaires pour pas que les chevaux soient vendus. C'est peut-être un peu le sujet. J'ai pas trop d'avis et puis je vais dire que je m'y suis pas trop intéressé et que... Voilà.
Et tu penses quoi du format, du coup, trois cavaliers, t'as un avis dessus ou...
Bah, j'ai un avis qui est peut-être pas forcément de celui de tout le monde, parce que ça a été beaucoup critiqué, mais je trouve que s'il y a un gros suspense qui peut être en place avec trois cavaliers, peut-être pour les chevaux, les cavaliers, c'est moins bien, peut-être pour le public, c'est mieux. Ouais, j'ai trouvé, par exemple, j'ai regardé la finale du Global à Prague. J'ai trouvé qu'il y avait des gros rebondissements, quoi. Sans le drop score, c'est sûr que ça change tout, quoi.
Ça fait quoi de monter en équipe ? Cette pression, est-ce que toi tu aimes bien porter la veste bleue ? J'imagine que oui, comme tout le monde, mais est-ce que c'est vraiment différent de monter une épreuve par équipe ?
Ouais, c'est différent. Clairement, c'est pas pareil. Et puis, je pense que plus on en monte, plus ça devient, je vais pas dire banalisé, mais ça devient facile d'en monter parce que il y a une pression qui est au début quand on fait nos premières, qui est beaucoup plus forte. Moi, j'ai pas fait beaucoup de Coupe des Nations. J'en ai fait seulement en première ligue, j'en ai fait seulement 3. Donc j'ai pas une grosse expérience en termes de Coupe des Nations, mais c'est des épreuves que j'aime, enfin, j'affectionne et qui sont vraiment, on partage ça avec d'autres cavaliers dans le bonheur comme dans le malheur, et ça crée aussi des liens.
Et surtout pour chaque athlète, une des choses dont il rêve de faire, c'est de porter les couleurs de son pays, de représenter sa nation. Je pense vraiment qu'il existe un honneur qui n'est pas plus grand que ça. Et le sport équestre, généralement, c'est un sport très individuel. Il y a toute une équipe derrière, mais à la fin, en piste, c'est toi et ton cheval. Et une des grandes différences quand on est en Coupe de Nations et on représente son pays, c'est qu'on a des coéquipiers. On peut parler avec eux, on peut discuter, on n'est pas tout seul, entre guillemets. Et je pense qu'une des choses les plus intéressantes d'être en Coupe des Nations, c'est qu'on peut comparer nos différents systèmes avec ses autres cavaliers qui en plus représentent la même nation que soi-même. Donc, est-ce que tu t'inspires alors des systèmes des autres afin de créer le tien ?
S'inspirer, je sais pas si je vais dire m'inspirer, non, c'est mon... Je mets en place ce que je pense être bien, mais ce que je pense être bien, probablement que je l'ai vu aussi chez certains et j'ai essayé de prendre ce que je trouvais bien chez l'un, chez l'autre. En parlant avec d'autres cavaliers d'expérience, comme je disais, on est presque copains tous, et il y a des gens avec qui on est encore plus copains que d'autres, et on se parle de choses et d'autres, donc comment tu fais ci, comment tu fais ça, et du coup ça donne des idées, ça inspire forcément.
Donc, pendant un concours, entre un barrage ou juste après une épreuve, est-ce que vous vous partagez un peu pas des conseils, mais ah, ça s'est passé comme ça, ça arrive vite, ou c'est chacun pour soi ?
Non, c'est pas chacun pour soi, parce qu'il y a évidemment des cavaliers avec qui on a, comme je disais, des affinités, même de l'amitié. C'est des amis, donc on se parle. Qu'est-ce que tu penses ? encore cette semaine avec Julien et Payard, on a discuté de, je lui ai demandé conseil sur, sur le plan que je devais adopter pour ce week-end. Et bon, ça a plutôt bien marché, ce qui est les conseils qu'il m'a donné jusqu'à présent. Mais voilà, c'est vraiment avec les gens qu'on a, avec lesquels on a des affinités, il y a des vrais conseils qui se passent. C'est pas et surtout de la même nation, surtout de la même nation.
Donc il y a quand même ce sentiment d'équipe.
Oui, bien sûr. Alors moi j'ai ce sentiment, je m'entends assez bien, enfin très bien même avec quasiment tous les cavaliers français de haut niveau. Donc non, il y a une bonne entente. Je trouve qu'il y a une bonne entente.
Parce que notamment, on regarde l'équipe suisse, ils ont l'air d'être comme une petite famille aussi. On s'est demandé si c'était un peu comme ça en France.
Ouais, tout à fait. Alors, je pense que c'est encore plus chez eux. Ils sont vraiment soudés, très solidaires et tout. C'est vraiment même un exemple d'équipe pour moi aujourd'hui. C'est vrai qu'il faudrait que l'équipe de France arrive à ça, même si moi j'ai une bonne entente avec tout le monde. Faudrait peut-être que s'inspirer de l'équipe suisse. C'est sûr que ça fait vraiment envie quand on les voit.
Et tu penses que cet esprit d'équipe chez les Suisses, c'est lié à leur chef d'équipe, au DT1, ou c'est vraiment...
Probablement, parce que je ne suis pas à l'intérieur de l'équipe suisse, donc je ne peux pas le dire. Mais probablement qu'ils ont trouvé quelque chose de mieux que ce qu'on fait nous actuellement. Donc c'est sûr qu'il faut regarder comment ils font et essayer de s'en inspirer.
On n'a pas envie de prendre trop de ton temps non plus. Mais si tu n'étais pas cavalier, tu penses que tu aurais fait quoi ?
Je ne sais pas.
Parce que t'es devenu pro à quel âge, à 18 ?
J'ai toujours baigné dedans. Je suis devenu pro après le lycée, quand j'ai arrêté l'école. En vrai, c'est ça. Mais j'ai toujours su que je voulais faire ça, quoi. Il n'y avait pas de...
T'as jamais eu un doute de s'y faire quelque chose d'autre ?
Non, parce que j'étais dans le concours. Je faisais déjà jeune, j'ai déjà fait de la compétition. Et puis ça me plaisait, et puis ça réussissait plutôt pas mal. Et puis voilà, avec mon père, grâce à mon père, on a mis un système en place qui fait que ça, c'est possible de faire du sport tout en gagnant notre vie. Donc non, quand c'est mon loisir et en même temps mon métier, donc je vois pas ce que je peux faire de plus satisfaisant, enfin de plus.
C'est quand même incroyable transformer sa passion dans son métier.
Mais ça c'est aussi beaucoup de sacrifices, hein. Parce que bah voilà, les jours de repos, bah on les oublie un peu, on fait pas, comme on dit, les sorties avec les amis en boîte de nuit le week-end, on fait pas les repas de famille, on fait pas, voilà, il y a plein de choses qu'on fait pas, mais qui moi me dérange pas de pas faire parce que j'aime cette vie.
Est-ce que vous avez le temps de prendre des vacances de temps en temps ou des week-ends libres?
Ouais, bah, ça arrive, on vit quand même. Après là, entre Noël et le jour de l'an, c'est un peu plus calme, donc là moi je vais profiter un peu de cette période. Et voilà, en général, on part une semaine l'hiver, une semaine l'été, quoi.
Parce que c'est important quand même aussi d'avoir une pause de temps en temps, non ? Changer d'idée.
Ouais, c'est sûr.
C'est sûr que pour accomplir des belles choses, comme tout dans la vie, il faut faire des sacrifices. Toutes belles choses dans la vie sont généralement liées à un sacrifice qu'on a dû faire. Mais bon, tous ces sacrifices t'ont quand même permis d'être là où tu es aujourd'hui. Donc qu'est-ce que tu dirais est ta plus grande fierté ?
J'ai pas de plus grande fierté, j'ai pas un moment clé, mais c'est de... Ma fierté, c'est peut-être de faire ce que je fais en ce moment, de réussir en partant, je vais pas dire de rien parce que je pars pas de rien, mais en partant sans dépenser des millions dans les chevaux et en gagnant ma vie avec ça, et en même temps faire le faire comme pourrait le faire moi je dis qu'on a, je vis une vie un peu de milliardaire sans l'argent, parce que je suis dans tous les pays d'Europe ou du monde toutes les semaines, dans des hôtels de luxe, mais qui sont payés par le concours. On mange des repas dignes de repas de restaurants gastro. On est vraiment... Enfin, je suis vraiment privilégié. Mais bon, il faut savoir que c'est pas... C'est, si je faisais pas ça, je pourrais pas le faire. Et si ça s'arrête demain, je serais pas malheureux non plus. Mais il faut se rendre compte qu'on est privilégié quand on tourne sur du 5 étoiles.
J'adore ce concept de vivre une vie de millionnaire sans l'être. Je trouve que c'est très intéressant de t'entendre dire ça. Et c'est quelque chose que probablement on a déjà pensé, mais qu'on n'a jamais entendu quelqu'un dire. Donc je pense que c'est très intéressant de voir justement cette perspective. Parce que surtout pour ceux qui ne font pas partie de ce monde des caisses, très souvent, ils le regardent et ils pensent que chaque cavalier est millionnaire. Mais on a bien vu que ce n'est pas le cas. Oui, c'est un sport qui coûte très cher, mais non, ça ne veut pas dire que chaque cavalier est un millionnaire. C'est vrai que c'est un peu le lifestyle qui accompagne le concours et cette vie, mais on ne peut pas se permettre de faire une généralisation sur chaque cavalier. Donc oui, merci pour cette... je pense que ça décrit très bien cette vie. Alors pour finir, on aimerait bien te demander... Quels sont tes objectifs sportifs ou personnels à court terme ou à long terme ?
On a toujours des objectifs parce que sinon on avance. Enfin, voilà, moi j'essaye de me mettre certains objectifs là. Par exemple, la Coupe du Monde indoor, enfin le circuit, c'est un objectif de ma saison. Je vais me donner tous les moyens et essayer de tout faire pour mener à bien cette saison Coupe du Monde et pourquoi pas participer à la finale. Ça, c'est un de mes objectifs. Voilà, après, toujours continuer avec des jeunes chevaux, avec des plus vieux, acheter, revendre, enfin toujours essayer de bouger les choses pour que ça puisse continuer dans le temps et que ça ne s'arrête pas après Blood Diamond ou Ice Cube. Que ça ne s'arrête pas à là, quoi. Il faut toujours renouveler.
En tout cas, avec cette éthique de travail, ta vision du sport, ta motivation, on n'a vraiment aucun doute qu'on te verra très très souvent briller au plus haut niveau. Et merci beaucoup pour ton temps. Je te souhaite bonne chance pour cet après-midi à toi et à Ice Cube.
Merci.
J'espère que cet épisode vous a plu. On vous encourage à aller suivre la saison de Julien de plus près, puisqu'elle semble avoir déjà très très bien commencé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans Beyond the Stables. They're jumbalas, they're clear, that's a great start. That is an absolutely superb round. We'll be right back.